Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
La Commission électorale nationale indépendante prépare les élections urbaines, municipales et locales. Le calendrier des différents scrutins a été rendu public depuis le 26 mai 2014 dernier. Alors, quels sont les différents scrutins à organiser? Qui sont les personnes à élire? À qui sont les électeurs? Quelles sont les différentes activités menées par la CENI dans le cadre des préparatifs des élections urbaines, municipales et locales? Pour en savoir plus, nous avons dans ce studio M. Ara Kalendi, directeur du monitoring à la CENI. Encore une fois, bonjour M. Ara.
Bonjour.
Alors, dans les cas des élections urbaines, municipales et locales, quels sont les scrutins que la CENI doit organiser?
Oui, la CENI doit organiser 6 scrutins. Mm-hmm. 6 scrutins qui sont répartis en 2 séries de scrutins. Mm-hmm. Les scrutins en question, c'est 1. Les scrutins qui sont organisés au suffrage universel direct. Mm-hmm. Et là, nous avons 2 types de scrutins. Ensuite, les scrutins organisés au suffrage universel indirect. Et là également, nous avons 4 types de scrutins. Mmh. Alors, pour les scrutins suffrage universel direct, mmh, nous avons les élections des conseillers de secteur. Et la circonscription à ce niveau, c'est les groupements. Nous avons les élections des conseillers municipaux. Mmh. Et là, la circonscription électorale, c'est les communes. Et les électeurs qui vont élire tous ces gens-là, je peux les résumer à 32 millions d'électeurs, mmh, voilà, qui sont répartis à travers tous ces groupements et villes.
D'accord. Donc on retient pour les élections directes, oui, au suffrage direct, nous avons les conseillers des secteurs et les conseillers municipaux.
Voilà. Mmh. Pour les scrutins à suffrage universel indirect, mmh, nous en avons 4. Et là, nous avons d'abord pour les premiers scrutins, c'est les élections du chef de secteur et leurs adjoints, mmh, les élections des bourgmestres et leurs adjoints, les élections des conseillers urbains et les élections des maires et leurs adjoints. Alors, pour les élections des chefs de secteur et leurs adjoints, mmh, ces élections vont se faire au niveau de 470 secteurs. OK. Pour les élections, et ceux qui vont les élire, ce sont les conseillers des secteurs. Mmh. Voilà. Par contre, pour les bourgmestres et leurs adjoints, ces bourgmestres seront élus au niveau de 603 communes, dont nous avons les communes rurales et les communes urbaines. Mmh. Alors, qui vont les élire, ce sont les conseillers municipaux.
Qui vont élire les bourgmestres et
les adjoints.
D'accord.
Les conseillers municipaux.
D'accord.
Par contre, les conseillers urbains, mmh, vont se faire dans les 312 communes urbaines. Et ceux qui vont les élire, ce sont les conseillers dans les communes urbaines. Mmh. OK?
Oui.
Et puis, le maire et leurs adjoints, ils sont élus dans les 97 villes. Et ceux qui vont les élire, ce sont les conseillers urbains.
Voilà, comment cela va se passer. Alors, quel est à ce jour l'état des lieux de l'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles dans la deuxième ère opérationnelle?
Oui, à la date du 22, sur les 150 territoires, nous avions déjà bouclé pour 129. 129, nous avons terminé la collecte pour 129, mmh, sur les terrains. Et parmi les 129, nous avons 102 antennes qui ont fini la centralisation. Quand nous parlons de la centralisation, c'est la saisie de toutes les fiches qui reviennent du terrain avec les préposés. Mmh. Alors, parmi ce 102, nous avons 77 antennes qui ont envoyé les données backup. Quand nous parlons des données backup, c'est-à-dire lorsqu'on a terminé la saisie, oui, l'informaticien, il a terminé la saisie complète de l'antenne, il envoie le denier backup. Parce que au fur et à mesure qu'il saisit, il envoie quand même. Chaque jour, il envoie.
Il envoie des informations.
Voilà, au fur et à mesure. Mais les données backup, ça veut dire, il a terminé et c'est fini.
D'accord.
Il a envoyé tout ça au niveau du Centre National des Traitements.
D'accord.
Voilà. Alors, à ce niveau-là aussi, on peut dire que, comme nous envoyons les préposés sur le terrain, qui étaient au nombre d'à peu près de plus de 6000, aujourd'hui, nous avons déjà 98% des préposés qui sont revenus. Donc, il reste seulement 2%.
Mmh.
Voilà. Et bon, par rapport aux entités qu'on a visitées, nous avons visité à peu près 97% des villages et quartiers.
Mmh.
Ouais. Les points géospatialisés, bon, là, les points géospatialisés, c'est quand on arrive dans un village, on prend le point, les coordonnées GPS de chaque village, on prend les coordonnées GPS de chaque site de vote, et on prend les coordonnées GPS des limites de quartier et ville.
Pouvez-vous appeler?
Et l'ensemble de tout ça,
d'accord,
c'est ce point-là, 452 315 points géospécialisés.
Alors, pouvez-vous rappeler aux auditeurs, c'est quoi l'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles, monsieur Erard?
Oui, l'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles consiste à prélever, à stabiliser, si vous voulez, les sites de vote en prélevant les coordonnées GPS. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans l'avenir, nous aurons des sites de vote bien identifiés, projetés, visualisés sur la carte, visualisés sur la carte, avec tous les villages au niveau de chaque circonscription regroupés autour des sites de vote.
Mmh.
Vous comprenez? De sorte que, au moment venu, chaque électeur,
C'est bien là où il doit aller voter.
Voilà, exactement. Ah,
il n'y aura plus de confusion du genre, votre nom est ici, et on vous dit que vous devez aller voter dans tel autre village.
Non, là c'est la deuxième phase.
Oui.
Parce qu'ici, la stabilisation ne sont pas encore là.
D'accord.
Ici, c'est identifier d'abord les sites de vote très bien identifiés, tous les villages et tous les électeurs. Mais là, la deuxième phase, c'est la fiabilisation. Peut-être on va y arriver.
D'accord. Alors, après la stabilisation des cartographies opérationnelles, quelle est l'étape suivante, alors, monsieur Erard?
Très bien. Mm. L'étape suivante, maintenant, c'est ce que nous appelons la fiabilisation.
Okay.
Alors, elle s'est fait comment? Voilà. Elle s'est fait de la manière suivante. C'est-à-dire, lorsqu'on a terminé la première étape, on doit produire des listes d'électeurs qu'on va afficher. OK? Il y a l'affichage des listes d'électeurs.
Oui.
OK. Après cet affichage, il y a la consultation. Nous demandons maintenant à tous les électeurs de venir consulter les listes pour savoir si le nom est là. La personne vient avec sa carte d'électeur, il consulte la liste. Elle vérifie si son nom se trouve sur la liste
des gens qui doivent voter là-bas.
Exact. Si le nom n'est pas sur la liste, il se plaint. On prend la réclamation, ok? Parce qu'il a sa carte.
D'accord. Alors, à l'étape de la stabilisation des cartographies opérationnelles, la CENI a travaillé seulement avec les préposés à la collecte. En sera-t-il les mêmes pour l'opération de fiabilisation du fichier électoral?
Oui, on va travailler avec les préposés à l'affichage. En fait, c'est un problème de dénomination.
D'accord.
Oui, pour le premier cas, c'était les préposés à la collecte.
Oui.
Mais ce sont les agents temporaires que nous prenons. Nous prenons pour la tâche.
D'accord.
Oui, et là, ça sera la même chose pour l'affichage. Nous allons travailler avec les préposés à l'affichage, qui sont pour la plupart des cas les responsables des établissements, des sites de vote, là où nous affichons.
Ok.
Voilà.
Alors, une fois l'opération de fiabilisation achevée, quelles sont les prochaines activités qui seront organisées par la CENI?
Oh oui, une fois la stabilisation achevée, bon, nous avons plusieurs activités qu'on organise. Après ça, il y a bien entendu l'inscription des candidats. Ok. Et dans cette inscription des candidats, il y a plusieurs tâches que nous organisons. Ok. Entre autres, la réception. On reçoit d'abord les dossiers de tous les candidats.
Oui.
On les traite. Et puis, on produit la liste provisoire et définitive de ces candidats. Et on élabore les maquettes de bulletins de vote. Vous savez que sur les bulletins de vote, on doit mettre soit les numéros du candidat ou bien sa photo. Ça, tout dépend.
Bien sûr.
Etc. Et après ça, il y a l'acquisition. On doit acquérir le matériel parce que c'est une grande opération qui demande quand même un matériel important à déployer sur le terrain. Donc, il faut identifier et quantifier ce matériel. Il faut les acheter, les acquérir, les livrer. Et après, il faut les déployer jusqu'au niveau des bureaux de vote. Troisième grande activité, c'est le recrutement, la formation des agents électoraux. Parce qu'après tout ça, avant les élections, il faut former. les agents électoraux qui vont travailler dans les différents bureaux de vote, qui sont à plus de 55 ou 60 000 bureaux de vote en République démocratique du Congo. Donc c'est une grande population que nous devons encadrer en termes de formation à ce moment-là.
Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Rémi Ngalassa de Kinshasa. Vous voulez également participer, poser vos questions à notre invité, M. Ara Kalendi, directeur de monitoring à la CENI, appelé au 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Préparatif des élections urbaines, municipales et locales par la CENI. Rémi Ngalassa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, l'invité.
On vous écoute.
Bonjour. Ok, j'ai une préoccupation.
Laquelle ?
Concernant les élections municipales, urbaines et autres, pour ceux qui ont perdu la carte de l'électeur, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour participer à ces élections-là ?
D'accord, merci. Monsieur Rakalendi.
Oui, pour ceux qui ont perdu la carte d'électeur, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que juste avant cette opération, nous allons nous allons lever la mesure portant sur la suspension de la délivrance des cartes de duplicata. Donc, ils pourront venir dans nos bureaux pour récupérer leur carte d'électeur. Mais ensuite aussi, les duplicata. Mais aussi, nous sommes aussi en train de ramasser toutes les cartes d'électeurs qui sont abandonnées par-ci, par-là. Mmh. Nous les ramassons et quand la personne vient qui a perdu la carte, nous allons afficher d'abord la liste de toutes les cartes perdues. Donc si cette personne arrive et que sa carte n'est pas sur la liste des cartes perdues, en ce moment-là, il remplit les formalités d'usage pour avoir les duplicata. Et donc, il n'y a pas de souci pour ça. Si vraiment vous vous êtes fait enrôler et que vous êtes dans notre base, vous n'avez pas d'inquiétude. On va vous produire une carte de duplicata.
Par exemple, pour ceux-là qui sont à Kinshasa, chacun doit retourner au site où il avait voté en 2011.
Non, quand vous avez perdu, vous ne devez pas aller au site. Vous allez à l'antenne, c'est-à-dire si vous, par exemple vous habitez la commune de Gombe et vous êtes fait enrôler à Gombe, vous avez perdu votre carte, normalement vous êtes dans la base de l'antenne de Gombe. Donc de Gombe. Vous devez aller là-bas pour retirer votre carte.
Voilà. D'accord. Alors, que doivent faire les partis politiques et la société civile durant la période des fiabilisations du fichier électoral, monsieur Ara?
Oui, les partis politiques et toutes les parties prenantes aux élections, en tout cas, ils ont cette obligation de sensibiliser leur population, la population d'une manière générale, pour que cette population vienne consulter les listes électorales. C'est vraiment très important. C'est un message que nous lançons à tous les partenaires des élections, c'est-à-dire les partis politiques, les ONG, qu'ils fassent un effort pour sensibiliser la population, pour leur demander de venir consulter les listes électorales. Comme ça, ça va nous éviter des problèmes les jours de vote. Mmh. Voilà.
Voilà. Donc c'est ça le travail que les partis politiques doivent faire. Ainsi que les ONG, pour que les gens viennent consulter les listes. Alors quand est-ce que ces listes seront placées?
Affichées. Juste après l'opération de fiabilisation du fichier électoral. Mmh. Oui, après cette opération, on centralise, on sort les listes provisoires. OK? Mmh. Et on les affiche. Maintenant, la date, je ne peux pas vous donner la date exacte.
Elle n'est pas encore connue, oui. Sadi Ngembo nous appelle de Matadi, dans la province du Bas-Congo. Bonjour, Sadi.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, je vous salue et je salue aussi l'invité. J'ai une petite préoccupation, même idée. La première, quand on vous parlait des responsables du monitorage dans la CENI, le monitorage, en réalité, si on peut le définir par rapport à la CENI, c'est quoi le monitorage? Parce que, d'une manière simple, c'est la surveillance. Et peut-être ma deuxième préoccupation, pourquoi notre CENI a toujours des difficultés, peut-être pour nous donner les résultats un peu plus proches? Si nous voyons, par exemple, certains pays, le Nigeria, le Brésil, où il y a plus de 100 millions d'électeurs, bah, peut-être ils ont les résultats dans un temps record. Peut-être le même jour ou les jours suivants. Pourquoi pas chez nous, peut-être il y a moins de 30 millions d'électeurs.
D'accord, merci Sadi, monsieur Ara.
Oui, le monitoring, quand on parle de l'unité monitoring à la CENI, c'est une unité qui suit les opérations sur le terrain. Mmh. C'est-à-dire, quand il y a une opération qui est sur le terrain, nous sommes là pour donner à l'autorité l'idée sur l'évolution de du déroulement de l'opération sur le terrain. Et nous avons des indicateurs pour ça, pour chaque opération. Ça dépend de chaque opération. Je crois que je ne vais pas entrer dans les détails, il a compris. Mmh. Oui, la deuxième question, c'est...
Pourquoi la CENI ne donne pas les résultats dans les temps, dans un temps record?
Ça prend
toujours...
Oui. Mais je crois comparaison n'est pas raison. Il doit comprendre que notre pays est ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. L'étendue du pays, 2 342 km². Et puis, avec tous les problèmes d'accessibilité que nous avons, des coins où la communication est... difficile.
Je crois qu'elle est enclavée.
Notre collègue doit comprendre que nous sommes dans un pays quand même qu'on ne peut pas comparer comme ça. Ouais, mais on est en train de faire des efforts. Je crois que vous avez suivi les élections partielles de Befalé. Ceux qui ont suivi ces élections, ils ont compris que il est possible également de faire ça, hein, de publier rapidement les résultats. Mmh. Nous sommes en train de réfléchir sur
cette étape. Pour Befalé, les résultats ont été publiés après combien de temps?
Non, c'était deux jours, juste après les élections.
Après les élections,
oui,
deux jours après,
on a publié.
On a publié.
Oui. C'était vraiment formidable. Donc, c'est un cas qui montre que c'est possible, mais il faut beaucoup de moyens.
Il faut beaucoup de moyens. Préparatif des élections urbaines, municipales et locales. Gentil Loumanou, vous êtes à Kananga. Bonjour. Gentil Loumanou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du show.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, je voulais poser la question de savoir si quelqu'un voulait aussi participer ou bien voulait aussi poser sa candidature dans les élections municipales. Il fallait qu'il ait de ses partis politiques. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelles sont les conditions pour déposer les candidatures dans les élections municipales et urbaines? Merci, c'est gentil, Manakana.
Bien, merci gentil. On va accueillir notre auditeur, Sokiché de Kindu. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
J'ai au moins une des petites préoccupations. Et la première, je voulais demander à l'invité, quels sont alors les sorts pour nous qui avons déjà perdu nos cartes électorales et nous préparons aussi pour être des candidats? Ça, c'est après.
Vous vous préparez à être candidat?
La deuxième, oui.
D'accord.
Et la deuxième, c'est de savoir, et pour quels sont les sorts aussi, même hors de l'idée, pour ceux-là qui ont déjà déplacé des villes, il était à Kindu, mais n'est plus encore à Kindu, il est allé à Kalemi, soit à Lubumbashi, et là, il ne sera pas encore rentré à Kindu. C'est ça, moi, mes deux préoccupations.
D'accord, monsieur Ara.
Merci. La première personne a parlé de conditions pour poser sa candidature. Bon, ça, je crois que ce n'est pas la CENI qui donne les conditions. Bon, si les membres du parti, tout Congolais, de toutes les façons, je pense, tout Congolais qui est âgé de 18 ans et plus, il a le droit, s'il estime qu'il peut poser sa candidature comme indépendant, il peut ne pas être dans un parti politique, il est un indépendant, il peut poser sa...
Pour les élections au niveau local, municipal et
urbain. Oui, pour toutes les élections. Oui. Tout Congolais a le droit de poser sa candidature, pourvu qu'il n'ait été... qui n'ait souffert d'aucune pénalité ou quoi, il y a des causes. Donc ça, ce n'est pas la CENI, il peut poser sa candidature s'il a l'âge. Et s'il n'a pas de problème au niveau de la justice, je crois qu'il peut poser sa candidature.
Non, les critères sont déterminés par la loi.
Par la loi, exact. Voilà. Alors,
Il parle de la perte, le sort de celui qui a perdu sa carte d'électeur.
Oui, ça j'ai déjà...
Le sort de celui qui se déplace, qui se retrouve dans une autre ville.
Oui, celui qui a perdu sa carte d'électeur, j'ai dit qu'il a la possibilité d'aller dans nos bureaux, nous allons ouvrir ça, et il peut avoir les duplicatas. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Alors, pour celui qui s'est déplacé, il n'est plus là où il était. Et bien entendu, ici, dans un premier moment, nous disons que ceux qui ne sont pas là où ils s'étaient fait enrôler, qui sont ailleurs, en principe, ils ne sont pas concernés par les élections locales ici. Voilà. Donc, les déplacements, là, les changements des résidences, nous sommes encore en train d'étudier ça, mais ils ne sont pas concernés au premier moment.
Voilà. Ils ne sont pas concernés. Il y a aussi une question qui revient souvent, les nouveaux majeurs.
C'est la même chose.
C'est la même chose, ils ne sont pas concernés.
C'est la même chose. Les nouveaux majeurs aussi ne sont pas concernés. Parce que quand on introduit cet aspect-là, nouveaux majeurs, ou bien les gens qui se sont déplacés, nous parlons de la révision du fichier électoral. Nous avons le cycle. Mais ça viendra. Parce que, par exemple, avant les élections de 2016, nous devons passer par cette étape. Mais comme il y a aussi le recensement administratif, vous vous rappelez, il y a le recensement administratif qui doit s'organiser et qui doit dire à la CENI qui est électeur et qui ne l'est pas, qui est congolais et qui ne l'est pas. Voilà. Donc à partir de ce recensement administratif, nous allons extraire les électeurs de ce fichier-là. Et là, tout le monde, les nouveaux majeurs et tout ce qui, on aura tous ces gens-là avant les élections de 2016.
Voilà. Préparatif des élections urbaines, municipales et locales. Au Capi Service, reçoit aujourd'hui M. Ara Kalindi, directeur du monitoring à la CENI. Maître Gaston Gandou nous appelle de Kinshasa. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Préparatif des élections urbaines, municipales et locales, Maître Gaston Gandou nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Daniel.
On vous écoute.
Bon, j'allais juste savoir pourquoi ne pas élire les chefs de la chefferie conformément aux droits électoraux. Parce qu'il me semble que non, là, c'est la coutume. On désigne conformément la coutume au moment où nous savons que les chefs coutumiers sont souvent en alphabet. Hein. Pourquoi ne pas les élire démocratiquement? Et puis, par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon, moi je vois que ce sont des petites juridictions. Hein. Pourquoi ne pas organiser ces élections-là, disons, à main levée, hein. Vous réunissez ceux qui sont censés lire et puis vous procédez aux élections, soit à main levée, pour voir le candidat qui sera vainqueur. Et puis, l'effet d'argent qu'on pouvait gaspiller, à mon avis, pour que ça soit destiné aux élections de 2016, parce que ces arriérés, disant qui sont en train d'appeler arriérés, je vois que ça n'a pas d'importance pour le moment.
D'accord. Merci, Maître Gaston. Il nous dit pourquoi ne pas organiser également l'élection des chefs coutumiers, parce que d'après lui, la plupart sont des analphabètes, et puis il y a pas mal de désordres de ce côté-là.
Ce qui est vrai, nous avons 470 secteurs et 262 chefferies. Oui. Alors, les chefferies, effectivement, les chefs de chefferie, c'est la coutume. Bon, là, je ne peux pas. Là, c'est la loi. Hein, si lui peut influencer les députés nationaux pour qu'ils changent ça, tant mieux. Mais la loi dit que les chefs de chefferie ne sont pas élus. C'est la coutume qui les désigne.
Oui, et souvent, il y a des conflits dans ces secteurs-là. Tel chef est décédé. Alors, un autre, il y a conflit entre les conflits des successions. Tel veut prendre le pouvoir et ça ne marche pas.
Tout à fait. Il y a des conflits. Mais vous savez, nous sommes tous des Congolais. Nous connaissons comment les choses se passent au niveau de la coutume. Mais il y a des garde-fous aussi. Hein. Vous savez que la coutume, il y a... Comment on appelle ça? C'est-à-dire, quand un chef se comporte mal, eh bien, la population peut lui jeter un mauvais sort. Ils ont une façon d'arranger ça.
De régler certaines...
Oui. Donc, je crois que... Mais je ne veux pas entrer dans les... dans ce débat-là.
Oui.
Mais je crois... Parce que ça a quand même marché pendant un temps, dans le passé. On ne peut pas dire que les chefs de chefferie sont mauvais ou bien ils conduisent mal la population. Pas nécessairement. Il y a des endroits où ils sont stricts, ils suivent la coutume et... ils protègent leur population. Et s'il y a des conflits à l'intérieur, ils s'intègrent, ils s'impliquent et ça marche. Donc tout dépend.
Tout dépend. Donc la CENI ne peut pas s'en mêler tant que la loi ne l'autorise pas. D'accord. Et il dit, pourquoi ne pas organiser des élections à main levée au lieu de perdre l'argent en organisant beaucoup de choses, en faisant tout ça, réunissez les gens quelque part et puis qui veulent voter.
Ils sont pour et qui sont contre.
Comme oui,
ça
voilà.
Se fait.
Oui.
Bon, à main levée, je crois qu'il doit comprendre qu'à ce moment-là, la base doit être plus ou moins contrôlables et petites. Vous voyez, par exemple, je vous donne le cas du Parlement, notre Parlement. Mmh. 500 députés qui sont là dans une salle, on peut dire qui sont contre et qui sont pour, et on les compte. Mais lorsque vous avez toute la République, par exemple, si je prends les élections présidentielles, comment vous allez faire ça à main levée? Ou bien vous êtes dans une commune pour les élections locales, dans un groupement. Oui. Comment vous allez faire ça? Vous allez réunir tous les électeurs du groupement et vous demander... Non, je crois qu'il faut dire à notre ami que ça dépend du nombre d'électeurs qui vont... Et puis il faut le secret de vote. Vous faites à main levée pour certaines élections qui sont très sensibles, on vous voit, on voit que tel a voté pour tel...
Ça vous expose.
Ça vous expose. Donc tous ces éléments-là, il faut qu'ils les analysent et qu'on voit si c'est possible. Mais à mon avis, lorsque la base des électeurs est très élargie, c'est très difficile d'appliquer ce principe-là. Mmh. Oui, réunir tout le monde à la fois.
Alors, donc, très bientôt, la CENI va organiser les élections urbaines, municipales. Est-ce qu'il y a déjà une date connue pour ces élections-là?
On a publié le calendrier, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas cette date exacte en
tête. Exactement,
oui. Oui, mais le calendrier est publié, et on peut se référer à ce calendrier-là et on va trouver la date. C'est d'ici là, oui.
C'est d'ici là, on va voter les chefs au niveau local, les conseillers municipaux, les bougoumestres ainsi que leurs adjoints. Seront votés. Voilà. Donc, par rapport vous avez insisté sur les listes qui seront affichées. Quand est-ce que cette opération va commencer pour que chaque électeur se rende au lieu du vote pour voir, vérifier si son nom se trouve ou pas sur les listes?
Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que nous sommes à aujourd'hui sur 150 territoires qui sont pour lesquels nous sommes en train de récolter les données au niveau de la stabilisation, nous avons déjà 129. Donc il nous reste seulement 21. Dès qu'on termine cette étape de stabilisation, nous passons à la deuxième étape. Et ce n'est pas... Bon, je ne peux pas... la fiabilisation.
Oui.
C'est à ce moment-là qu'on va afficher et... En principe, ça ne doit pas être, on ne doit pas attendre très longtemps. Mmh. Un mois, tout au plus, ou deux mois.
Est-ce
on va le faire.
Monsieur Ara parle bien Lingala, ou, Swahili, bon, on va tenter. Lingala, ça passe quand même, non?
Ça passe quand même Swahili un peu, mais, bon, ok. Pourquoi?
Bon, c'est ni eux ont préparé ma pronomie. Il y a, à niveau, il y a, urbain, ou bien, élection urbaine, municipale, à niveau local. Il y a un service beaucoup, mais, n'est-ce qu'à Nini? Namabongisha ya maponomi wana.
Bo, namabongisha ya maponomi wana. Toza nano na etape yako stabilize ba site de vote. Esika batu bako kende ko vote. Mosala otoza sa mikoloyo, ezali yako identifiye ba site wana. To identifiye pe esika ba elektele ba fandaka, dozali da le village. Soki to silisi etape wana, sikoyo toko leka na etape ya mibale oyo wana toko sorti ba liste d'électeur toke oti yango na ba école ba site de vote sika bato bako vote
bako vote wana
po bato bakende kotala soki kombo na bango ezali soko kombo ezali te azana kati na ye kombo ezali na liste te wana ako kende pa ya mutu wana oya zali
wana. Ayifu ayana lombango wa yebi sayete bubo sani kombo na nga izali.
Tango wazo ya wana, tango wazo konsulte, na tango wana sokwa monike kombo na ye izali te, pe azana kate. Mutu ya zali wana, otozo benga prepoze al afishaj. Azana ba fish, ako koma.
Ke moto, kingani, papa kingani, gani, to mama songolo,
wala,
kombo na ye izali.
Nimero ya kate na ye izali boyo, tout sa, kombo na ye izali na analisi na bisote. Ah, de sorte que si mana musala wana tokubungisa makamu nyoso de tango tokubungisa baliste mususu kombo na ye kozala eko bunga te
et donc mbala sima esengeli na ye azonga lisusu po ya kotala soki kombo na ye ebimi kombo na liste
oui tokwafishe yango au moins 30 jours avant loi ezo senga biso avant
maponomi
voilà tokwafishe baliste yango 30 jours avant pour que ba électeur ba ya kotala soki bakombo na bango ezali soki pe ezali esika wana oyo alobaki ya kovote.
D'accord.
Okay.
Donc, tu rappelles les choses, c'était ma élection, oh, yo, Italie, ba bougoumestre, na ba commune, na ba adjoint, na bango, banani, pelo, banani, soso.
Donc, il y a ba bougoumestre, ok, na ba adjoint, na bango, ba conseiller urbain, na ba maire, Voilà.
Bien, merci Monsieur Ara Kalindi, directeur chargé du monitoring à la Commission électorale nationale indépendante, pour nous avoir donné les informations sur les préparatifs des élections urbaines, municipales et locales. À la prochaine.
Merci.